Olivier, est-ce que je peux te demander de baisser un peu le gain, s'il te plaît, sur la chair? Merci. Alors effectivement, ce matin, on commence une série de prédications qu'on va porter, Laurence et moi, une série de 5 prédications autour de la question des dons de l'esprit, qui nous sont amenés notamment par Paul dans la Bible. Je fais de la pub, les cahiers de l'école pastorale. Il y en a des cartons pleins dans la bibliothèque. Avec un titre comme ça, c'est pas très amenant. Comme ça, on se dit non, ça, c'est un bouquin pour les pasteurs. Moi, je suis pas pasteur. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. C'est écrit par des personnes qui sont nos contemporains. Effectivement, il y a des réflexions sur l'Église, mais il y a aussi des articles qui parlent plus de quelque chose qui peut être personnel. C'est pas forcément que orienté vie d'Église. Pourquoi je vous en parle? Parce que la prédication d'aujourd'hui qu'on va voir a été structurée, réfléchie, notamment avec ce que Nicolas Farelli dit là-dessus. Donc dans le cahier de l'école pastorale de je ne sais plus quand, c'était il n'y a pas très très longtemps. Mais voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'il a pu dire. Et j'espère pouvoir vous retranscrire de manière juste ce que le texte nous en dit aujourd'hui. Et donc ce que je vous propose, c'est que ce matin, nous ouvrions ensemble la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens. On lira depuis le verset 28 du chapitre 12 et on terminera au verset 7 du chapitre 13. Vous pouvez suivre dans vos bips personnels et autres smartphones. Moi, je lirai dans la version du Summer. Si j'arrive à... Voilà. Le chapitre 13 de cette lettre est souvent cité, en particulier lors des bénédictions de mariage. En réalité, c'est un passage qui se veut recadrer une église qui fait fausse route. On est loin de la bénédiction de mariage. Alors, assurément, oui, il est question d'amour, mais l'expression un texte hors contexte n'est qu'un prétexte est une mise en garde ici qui nous conseille, qui nous oblige même à commencer notre lecture au verset 28 du chapitre précédent. Lisons donc à partir de Corinthiens 12, verset 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction d'église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils des langues inconnues ou tous interprètent-ils? Évidemment, non. Aspirez aux dons les meilleurs, et pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Pour prendre possession de ces recommandations de Paul, je vous propose de vous raconter une petite histoire. Enfin, une petite. Une histoire. Un homme avait une chocolaterie qui fonctionnait bien et il commençait à avoir une certaine renommée. L'homme était vieux et il souhaitait que ses trois fils reprennent son activité après lui. Cette chocolaterie, c'était son projet, c'était sa passion de toute une vie. Il voulait que ce projet persiste après lui. Il avait tant donné pour l'atelier, tant donné dans son travail, qu'il ne savait pas dire s'il avait réussi à transmettre cette passion à ses enfants afin que celui-ci reprenne l'atelier après sa mort. Son rêve un peu fou serait que ses trois fils reprennent ensemble l'activité et avec la même passion que lui. S'il avait déjà du mal à se convaincre que l'un d'eux le ferait, alors les trois ensemble. Il eut une idée et écrivit son testament en ce sens. À l'aîné, je lègue l'atelier avec ses machines. C'est toujours lui qui a joué à être le chef parmi ses frères. Il sera un bon responsable d'atelier. Au second enfant, je lui lègue le manuel d'entretien et d'utilisation de ses machines. En effet, ce sont des machines complexes et capricieuses, et je sais qu'il aime veiller et prendre soin. Au troisième et dernier enfant, je lui lègue les recettes. C'est le secret bien gardé de tout chocolatier. Ainsi, croyait-il, chacun des enfants ne pouvait espérer faire fonctionner la chocolaterie seule. L'année suivante, le jour de Pâques, le père s'en alla. Quelques jours plus tard, les trois fils sont conviés chez le notaire. Ce dernier fait la lecture du testament. L'aîné est satisfait. Mais ses deux frères tirent une mine sévère. Injustice. Tout a été donné au premier. Les deux autres n'ont reçu qu'un manuel technique inutile et un bout de papier griffonné avec les ingrédients de la recette. Le premier fils pensa donc qu'il était le vrai héritier, car c'est lui qui a la chocolaterie. Évidemment, c'est logique que notre père ait confiance en moi. C'est sur moi qu'il compte. Je vais faire tourner l'atelier. Père me donne une grande responsabilité et il va de soi que mes frères vont suivre mes décisions pour la bonne santé de l'entreprise. Alors, pour le moment, les machines vont bien, mais il me faut la recette. Il va donc voir le troisième fils. J'ai besoin que tu me donnes la recette pour que je puisse continuer à produire. De toute façon, si tu ne le fais pas, tu seras responsable de ne pas permettre que l'œuvre de notre père se poursuive. Il m'a donné l'atelier et j'ai besoin de la recette pour continuer la production des chocolats de notre père. C'est à moi que le père a donné la recette. Sans la recette, ton atelier ne vaut rien. Je peux te laisser gérer l'atelier, mais comme je suis en possession du sucre et du chocolat, c'est moi qui décide de ce que nous faisons. Toute la valeur de l'entreprise de notre père est dans la recette. J'ai l'atelier, j'ai la marque, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne vais pas céder à tes exigences. Je suis l'aîné. Mon père m'a donné l'atelier et j'en suis responsable. Je ferai donc sans la recette. Après tout, j'ai bien vu pendant toutes ces années comment on faisait du chocolat. Fâchés, les deux héritiers se séparent. Le second fils, de son côté, voyant que tout le monde l'ignore, part faire sa vie ailleurs, loin de ses frères, loin de tout ça. L'atelier continue de produire quelques chocolats, mais rapidement, les clients se rendent compte que la recette a changé et que, même si ça reste du bon chocolat avec des ingrédients de qualité, il manque ce petit quelque chose qui faisait la renommée de leur père. De son côté, le Benjamin se dit que lui non plus n'a besoin de personne. Il a la recette, la vraie, et il peut faire du chocolat Chez lui, dans sa cuisine. Il se fait connaître et vend les chocolats sous la marque de leur père en prenant soin d'apposer une mention, la vraie recette, sur chacune des boîtes qu'il arrive à produire tout seul. Comme la clientèle se rend compte que les chocolats produits à l'atelier sont désormais moins bons, les commandes chutent. De son côté, l'héritier avec la recette, lui, peine à fournir malgré tous ses efforts en cuisine et presque personne n'arrive à s'en procurer. L'aîné est en colère contre son plus petit frère. C'est à cause de lui si tout le projet de leur père disparaît, s'il n'avait pas été si égoïste à vouloir garder la recette pour lui seul. Il appelle son frère pour lui faire connaître clairement son avis. Depuis sa cuisine, le dernier-né reçoit mal les critiques de son frère, car il est lui-même accablé, épuisé de ne pouvoir répondre à la demande. Il voit bien que tous ses clients continuent à lui faire confiance, mais toute cette fatigue et ces heures passées en cuisine ne seraient pas là s'il avait les machines à disposition. Voyant qu'ils ont besoin l'un de l'autre, ils se mettent d'accord sur un partage des bénéfices et des responsabilités pour travailler ensemble. L'aîné à la direction et le Benjamin au mélange. Pendant ce temps, le second frère avait ruminé dans son coin contre son père. Visiblement, père ne m'aime pas. Il m'a donné quelque chose d'inutile. Sans machine à entretenir, mon savoir et mes compétences ne servent à rien. Je ne peux même pas mettre ça sur un CV. Ce sont les machines que mon père a lui-même fabriquées. Personne n'a les mêmes. Il désespère, range le manuel d'entretien dans un carton et part gagner sa vie autrement. Il oublie l'atelier et le chocolat. La chocolaterie fonctionne de nouveau plutôt bien, les machines tournent à plein régime et ça sent bon le cacao dans tout le quartier. Le Benjamin continue d'ajouter son petit macaron, la vraie recette, sur chaque boîte qui sort de la chaîne. Malheureusement, à force de faire tourner la production, les machines fatiguent, jusqu'à la panne de la machine à concher. En panique, les deux frères téléphonent à leur frère réparateur. Ils le supplient de revenir, leur vantent la réussite de la production. Ils ont besoin de lui, car la ligne de production est à l'arrêt. Bien content d'enfin servir à quelque chose, le réparateur débarque pour prendre soin des machines. Il sent qu'il ne pourra jamais s'immiscer dans le duo que forment leurs frères, mais bon, lui, il se sent utile et visiblement ça lui suffit. Le temps passe, mais les rivalités restent. Le Benjamin n'a pas oublié que son frère veut tout décider. Chaque jour qui passe le lui rappelle. Le frère réparateur est effectivement revenu, mais il s'acharne à donner de l'attention à toutes les machines. Mais personne ne lui en donne un retour. Il y a de l'eau dans le gaz. Voici bientôt un an que leur père est parti et nous approchons de Pâques. Les commandes affluent car tous les magasins veulent remplir leur étalage à temps. L'aîné demande de simplifier la recette pour optimiser la production et assurer toutes les commandes. Son frère s'y oppose, bien entendu. Et voici, une fois de plus, qu'il n'est pas respecté. Le réparateur lui fait des heures pas possibles pour que toutes les machines tiennent le coup, mais personne ne voit le temps qu'il y passe en dehors des heures de fonctionnement de l'atelier. De nouveau, c'est la crise. On est au bord d'une nouvelle séparation. C'est alors qu'un des fidèles et tout premiers clients de leur père vient à l'atelier chercher sa commande. Il leur montre une photo prise devant l'atelier il y a une dizaine d'années où l'on voit la fierté d'un père avec ses trois enfants autour de lui. La joie se lit sur les visages de cette photo. Elle détonne par rapport aux traits sérieux et fatigués de trois frères devenus adultes. Tous les trois, par cette photo, se souviennent de l'amour du père pour la chocolaterie. Ils se rappellent de la passion qui l'animait et qui les faisait rêver en l'entendant raconter ses journées à l'atelier. Ainsi, Alors qu'ils étaient dans une passe difficile, ils font le constat qu'il leur manquait l'essentiel. Leur père leur a donné un legs, un don à chacun d'entre eux. Mais il ne devrait pas être conservé et utilisé égoïstement. Cette année passée leur a montré qu'ils ont besoin des uns des autres. Le projet de leur père est le cadre dans lequel ils peuvent mettre en œuvre le don qu'il leur a donné. En voulant garder leur legs pour leur seul bénéfice, ils n'en feront pas profiter l'atelier et créent un climat de dysfonctionnement, d'épuisement et de déception. Ils doivent accepter que leur don n'est pas pour eux. Ce qu'ils ont reçu prend tout son sens quand il est mis au service du projet du Père vers les autres, pour leurs frères, pour l'atelier et pour tous les gourmands qui veulent de leur chocolat. Désormais, c'est par amour qu'ils feront bon usage du don que leur Père leur a donné et ils seront reconnaissants pour les dons que leurs frères leur font profiter. Alors revenons à notre texte de départ. L'église de Corinthe a vécu une histoire similaire à ce récit fictif. Mais avant de voir ça, je vous propose de relire ensemble quelques versets dans Corinthiens 13. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Dans l'histoire que je vous ai racontée, le Père représente Christ. En effet, Jésus est retourné à Pâques auprès du Père, mais il a donné légué quelque chose à ses disciples en partant. Et ce don, c'est l'Esprit-Saint. Il nous l'a donné en nous disant non d'aller vendre des chocolats partout dans le monde, mais d'annoncer et de faire connaître la bonne nouvelle du salut. Son projet est là, et l'Église, avec un grand E, est le moyen par lequel il veut permettre ça. Nous croyons que l'Esprit-Saint a donné à chacun d'entre nous au moins un don. Extraordinaire, n'est-ce pas? On a tous reçu quelque chose. Pour autant, ce don n'est pas pour nous, il est pour les autres. Les trois fils ont eu du mal à comprendre cette volonté de leur père dans l'héritage reçu. À la lumière de la lettre aux Corinthiens, il apparaît que c'est aussi un sujet difficile à saisir pour les chrétiens. Notre nature humaine prend plaisir à être quelqu'un, à avoir une identité, à avoir son truc à soi que l'autre n'a pas. Ce truc, comme je viens de le dire, prend tout son sens quand nous le mettons au service de l'autre. L'autre, c'est mon frère dans la communauté, c'est cette machine complexe et unique, car créée par le Père dans l'atelier, qui a besoin d'être consolée, aimée, encouragée, formée, accompagnée. L'autre, c'est aussi mon prochain qui n'a pas entendu la bonne nouvelle de Christ. C'est celui dont on a envie qu'il goûte ce chocolat et qu'il en redemande. Et qui sont ces fils dans cette histoire et que représentent ces machines? En tant que serviteurs de Christ, nous sommes chacun pour notre part une des machines, un des rouages de l'Église. En tant qu'héritiers des dons de l'Esprit-Saint, nous sommes aussi tous ensemble les trois fils du Père. Alors ce chiffre 3, ce n'est pas une histoire de Trinité, ce chiffre 3, ça représente la catégorisation traditionnelle des dons de l'Esprit. Nous savons que Christ est à la fois roi, prophète et prêtre. Et à sa suite, nous le sommes nous aussi, les trois à la fois. Et si nous savons que Jésus avait en lui tous les dons de l'Esprit, de manière particulière, le Saint-Esprit nous donne des dons spécifiques, au moins un et parfois plusieurs. Alors il y a les dons royaux, les dons représentés par le Fils aîné, le don d'apôtre ou d'implanteur, celui qui va semer la bonne nouvelle sur des nouvelles terres, le don de leader qui conduit avec zèle dans la recherche de l'unité, le don d'administration qui aime prendre en charge les sujets techniques, le don de sagesse qui a cette faculté à résoudre des problèmes dans la conduite de l'Église, le don de la foi qui sait envisager clairement un but et y aller avec engouement. Il y a les dons prophétiques, ceux du second fils, qui sont le don d'évangélisation, qui a une faculté à présenter clairement l'Évangile afin que les personnes croient, le don d'enseignement qui a une capacité pour aider les autres à apprendre, le don de connaissance qui communique facilement la vérité, le don de discernement qui permet de distinguer le vrai du faux, le don de prophète qui, dans la vérité, apporte un message de la part de Dieu. Et finalement, les dons de prêtrise, ceux du Benjamin de notre histoire, le don d'encouragement qui sait motiver les troupes et les individus, le don de l'aide qui aime assister concrètement et probablement matériellement, le don de guérison qui facilite la restauration physique et émotionnelle, le don de berger ou de pasteur qui discerne et apporte ce que les personnes ont besoin pour grandir, le don de service qui sait pourvoir de manière pratique et efficace, et le don de compassion qui sait transmettre de la compassion et de la joie pour aider celui qui ne va pas bien. À la suite du Christ, je l'ai dit, nous sommes tous prophètes, prêtres et rois, mais chacun de nous a reçu des dons particuliers afin que nous les mettions au service de l'Église. En écoutant cette liste, qu'avez-vous pensé? Il est normal de chercher à savoir quels sont les dons qui semblent nous correspondre. Et c'est là qu'intervient le chapitre 13 de Corinthiens. Peu importe le don que j'ai reçu, si je n'ai pas l'amour avant tout, je n'ai rien d'utile pour Dieu. Alors que faut-il faire? Est-ce qu'on laisse tomber la recherche des dons et on se concentre à rechercher l'amour? L'un n'exclut pas l'autre. C'est une affaire de priorité. Pourquoi chercher à savoir si nous avons le don de prophétie? Serait-ce pour obtenir un temps de parole de 30 minutes pour montrer que nous parlons bien? Ou serait-ce pour vouloir aider nos frères et sœurs à recevoir la nourriture que le Seigneur nous a donnée dans sa parole? Pourquoi rechercher un don de sagesse? Voudrions-nous être celui dont la parole n'est jamais remise en question? Ou avons-nous conscience que seule la sagesse de Dieu emmènera l'Église sur le bon chemin? Pourquoi même vouloir le don de guérison si ce n'est pour glorifier le Père, de nous donner des paroles et des attitudes qui restaurent et réparent nos frères et sœurs? Nous avons un don car le Saint-Esprit vit en nous. Ce don, il n'est pas pour nous. Il a été donné par Dieu pour le bien de son Église et de l'annonce de la bonne nouvelle. Ne pas chercher à le mettre à disposition de son œuvre, c'est dommage. Toutefois, afin d'en faire bon usage, celui que Dieu a prévu, mettons l'amour pour nos prochains au premier plan. Et pour reprendre la prédication de Hervé de la semaine dernière, oui, servons dans l'Église. Participons à l'œuvre que Dieu veut faire avec nous tous. Servons pour mettre à disposition nos dons reçus. Servons pour rechercher sur le terrain ce que le Seigneur fait au travers de nous. Servons avec l'amour qui nous pousse à aimer l'autre, à aimer l'Église, à aimer notre prochain, à prendre plaisir à voir le salut annoncé. Ce chemin de découverte des dons au travers de l'amour manifesté est un sentier que nous voulons emprunter ensemble, fraternellement, en Église. Et pour ça, je vous propose que nous prions. Et je m'adresse à vous, est-ce que quelques-uns dans l'Assemblée ont à cœur de prier pour nous tous? Sentez-vous libre d'élever votre voix maintenant. Amen.